90.5 FM.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Globule Radio. Vous êtes sur 90.5 FM. Vous êtes dans la région de la Haute-Savoie. Vous êtes avec Gabriel et je travaille avec Globule Radio. Dans mon groupe, il y a Wided, Jacinta, Gushen et Lina.
Nous travaillons avec Globule Radio depuis quelques mois pour créer une émission radio sur les médias locaux. Prochainement, vous allez entendre nos journalistes Jacinta et Gabriel, qui ont respectivement rencontré François Hamelot et Baptiste Savignac.
Nous avons entre 12 et 13 ans. Nous sommes au collège du Vernet à Sallanches. Nous sommes en 5e et ce projet nous a pris beaucoup de temps et j'espère que ça va vous plaire.
Nous avons écrit des chroniques autour des médias, nous avons fait des portraits de journalistes, nous avons choisi différentes musiques, nous avons écrit des sujets autour de nos passions et tout ça forme une émission.
Nous voulons remercier nos professeurs qui nous ont accompagnés dans ce projet, les profs de français, de musique, d'histoire, d'anglais et Madame Barbuto. Et j'aimerais aussi remercier ma mère qui fait guise de photographe. Alors c'est parti pour Globule Radio, prêt au décollage.
Bon dia, salut tout le monde, je m'appelle Gabriel et j'ai 13 ans. J'ai deux frères et une sœur, tous plus grands que moi. Je suis le plus petit de tous. Je veux devenir coiffeur et je suis déjà tonton 3 fois. Mon métier est animateur.
Je m'appelle Widette et j'ai 12 ans. Je suis au collège du Vernet. J'aime beaucoup aller au cinéma avec ma famille, écouter de la musique. Mon rêve est de partir au Japon. Je suis dans le groupe média où je suis animatrice. Je voudrais passer le bonjour à ma mère et à mon père et mon frère qui m'écoutent. Vous allez écouter la chanson Ta Reine pour rendre hommage à l'INSEE. Bonne écoute.
Elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir.
Hola, je m'appelle Jacinta, je suis au collège du Vernet, je suis dans le groupe des médias locaux. J'aime beaucoup la musique et Mourone est la technicienne.
Salut tout le monde, je m'appelle Lina, j'ai 13 ans, je suis en 5e au collège du Vernet, je suis programmatrice musicale et je vous concocte une super émission.
Coucou, je m'appelle Gulchen, j'ai 12 ans, je suis en 5e au collège du Vernet. Moi aussi je travaille sur les médias, j'adore les réseaux, le rap français et les sorties avec mon groupe.
Maintenant je vous laisse vous porter par Sou Portugais pour rendre hommage aux Portugais en France. A tout de suite.
Ma famille, ma vie et le village où mon père est né. Mais j'emmène avec moi la damigna terra. Ce bolo batata, c'est une refuge du porto dans la cova. Maillot de sélection, le maillot des champions. Sur mon dos, je porte s'il y a des jaloux. Oh, y'a que ce faute. Jamais français, ai minha casinha, festa da sardinha, caipirinha e praia, ver o pôr do sol por cima da vinha. Sou este soldado, o que vai à guerra, coração que chora, coração que sofre, mais uma macieira.
Vous avez écouté Sou Português Imigrante. Maintenant, notre formidable Jacinta discute avec François Hamelot, qui est l'éditeur de la revue Nature et Patrimoine.
Bonjour, je m'appelle François Hamelot, je suis directeur de l'association Centre de la Nature Montagnarde, qui est basée à Sallanches depuis 1985, et nous sommes éditeurs depuis un peu plus de 20 ans de la revue Nature et Patrimoine en Pays de Savoie.
Quelle est la différence entre une revue comme la vôtre et en média?
Alors, je dirais que cette revue-là, c'est un média, dans le sens où elle cherche à toucher un assez grand nombre de lecteurs. Hein. Elle est tirée actuellement à 4000 exemplaires, avec une diffusion très large sur l'ensemble du département, y compris donc les CDI du collège dans lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des numéros. Elle contribue en fait à faire partager au plus grand nombre des thématiques liées à l'environnement et au patrimoine naturel, culturel et historique de la Haute-Savoie.
J'imagine que cette revue parle de la nature et patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son contenu ?
Oui, en fait, on a des rubriques récurrentes qui permettent d'organiser et de structurer un petit peu la lecture. Donc, on commence généralement par une rubrique qui s'appelle « Histoire et patrimoine ». Le nom est assez explicite, mais dedans, on va pouvoir aller, par exemple, explorer des fouilles archéologiques, un château médiéval, ou peut-être voir aussi une figure locale et connaître la biographie, le parcours d'une personnalité locale, locale à l'échelle de la Haute-Savoie toujours, hein, c'est pas que le pays du Mont-Blanc ou que Sallanche. Ensuite, on peut parler des espaces naturels, c'est une rubrique que j'active régulièrement, notamment autour de la gestion des réserves naturelles de Haute-Savoie, par exemple. Chaque revue est structurée autour d'un dossier, un grand dossier, qui prend 6 à 8 pages et qui aborde vraiment beaucoup plus en profondeur un thème particulier. Ensuite, on passe plutôt aux sciences de la vie et de la terre. Donc ça, c'est une rubrique qui est vraiment très très vaste. Donc on va aborder une espèce, le chamois, la marmotte ou le muscardin, par exemple, qui est beaucoup moins connu. On va aussi pouvoir s'intéresser à la géologie, ainsi qu'aux disciplines qui ont trait en fait à l'évolution du milieu naturel de la montagne. Et puis, ponctuellement, il y a aussi une rubrique sur l'agriculture qui permet de mettre en valeur le travail des alpagistes et puis des techniciens qui accompagnent les alpagistes, notamment par exemple pour la cohabitation avec le loup.
Quand est-ce que cette revue a-t-elle été créée ?
Alors cette revue, en fait, elle a une longue histoire. Elle est née à l'origine dans les années, je me demande si c'est pas les années 70, et puis elle a évolué. Au début, c'était quelque chose qui était diffusé assez faiblement, je dirais peut-être quelques centaines d'exemplaires ou mieux. Et puis, il y a eu une grosse impulsion qui a été donnée par le Conseil départemental de Haute-Savoie en l'an 2000 exactement, qui a souhaité faire partager vraiment au plus grand nombre, et c'est là, je dirais, que la revue est devenue un média, faire partager au plus grand nombre, en fait, toutes ces thématiques liées à l'environnement et à la nature, la culture, l'histoire, en créant donc cette revue qui a pris ce nom, Nature et patrimoine en Pays de Savoie, et en assurant une diffusion large, y compris une création aussi professionnelle que possible via le travail de notre association et l'animation donc d'un réseau d'auteurs qui sont des contributeurs de la revue.
Qui sont les contributeurs, les gens qui l'écrivent ?
Alors cette revue, ce n'est pas nous qui l'écrivons, on fait appel en fait à des ressources extérieures. Donc dans mon travail, il y a le fait d'animer un réseau d'auteurs et puis de chercher toujours de nouveaux sujets, de nouveaux contacts, de nouveaux auteurs, tout à travers du département. Pour ce faire, moi je participe à des comités scientifiques au sein des réserves naturelles de Haute-Savoie, puis du Géoparc du Chablais, et ça me permet de rencontrer pas mal de gens différents et puis de voir un petit peu l'intérêt qu'ils pourraient avoir à publier dans la revue sur leurs sujets de prédilection, des travaux de recherche, des études qui viennent d'être faites, la restauration aussi d'un patrimoine, d'un bâtiment. Voilà. Donc ils sont très très variés, ils viennent des collectivités, communes, intercommunalités, départements, d'instituts scientifiques, d'associations pour l'essentiel.
Combien de revues sortent chaque année ?
Alors chaque année, nous éditons 3 revues. Je dis nous éditions, car depuis l'année 2022, nos financements ont été revus à la baisse, et du coup, une revue coûtant quand même relativement cher, on n'est plus en mesure de n'en éditer que 2 par an, mais on va faire en sorte de conserver une exigence de qualité qui soit strictement identique à ce que nous faisions précédemment.
Quel volume de travail cela représente pour vous ?
Alors c'est assez conséquent, hein, pour sortir un numéro, c'est à peu près 15 jours pleins de travail. C'est pas des journées de 7 heures, donc c'est vraiment quelque chose de conséquent. Et en Corse, comme je le disais tout à l'heure, ça ne prend pas en considération le travail d'écriture. En revanche, via ma formation, moi je suis en mesure, comme n'importe quel rédacteur en chef, entre guillemets, de pouvoir faire des ajustements directement sur les articles, s'il y a des formules à changer, s'il y a des légendes de figures à faire ou autres. Voilà, ça rentre en ligne de considération dans le temps que j'y passe, de façon à faire en sorte que chaque article qui me soit fourni par des auteurs aussi variés soit-il, trouve sa place techniquement, naturellement, dans la revue avec une mise en cohérence.
Est-ce qu'il y a des rubriques récurrentes ?
Oui, nous faisons en sorte d'avoir toujours cette structuration, donc avec le côté plutôt patrimonial historique au début, le dossier qui est au cœur de la revue et qui la structure, et puis les parties plutôt liées à l'environnement, sciences de la vie et de la terre, à la fin de la revue.
Est-ce qu'il y a toujours un poster offert ?
Alors, il n'y était pas au début, le poster. On l'a mis en place, de mémoire, ça doit être en 2008 ou 2009, sous l'impulsion de notre ancien président, président de notre association, hein, qui était un éditeur d'art graphique. Donc, c'est quelqu'un qui faisait des posters, qui faisait des cartes postales, plein de supports comme ça, qui avait une entreprise qui était basée à Sallanches et qui rayonnait vraiment dans le monde entier. Il était présent sur les 5 continents. Du coup, il était très sensible à ça. et c'est lui qui a été à l'impulsion de la mise en place du poster. Donc, depuis lors, nous faisons fort d'avoir un poster encarté dans chacune des revues avec toujours un sujet différent et essentiellement autour de la faune pour avoir des photos originales d'espèces qu'on trouve en Haute-Savoie. Et ces posters, en fait, depuis qu'ils ont été édités, ils ont été réellement appréciés et on se rend compte, nous, au gré des différentes rencontres qu'on peut faire ou visites qu'on peut faire, qu'ils sont présents dans les écoles, dans les salles des maîtres, je pense qu'il peut y en avoir ici au mur du CDI. On va les retrouver aussi dans certains bureaux des offices du tourisme, dans les bureaux de collectivités. Ils sont vraiment, le poster, c'est peut-être la chose la plus connue actuellement de la revue parce qu'on le trouve sur les murs de pièces tout au travers du département. Donc on y est vraiment très très attaché, puis on trouve que c'est un côté assez sympa pour agrémenter les murs des salles.
Merci beaucoup François Amelot pour ces échanges.
Bah écoute Jacintia, moi je suis ravi d'avoir pu t'expliquer un petit peu mieux mon travail, ce que je fais pour mettre en valeur tous ces patrimoines à l'échelle de la Haute-Savoie, et puis d'avoir pu contribuer modestement à la vie du collège.
Merci d'avoir écouté mon interview et voici la chronique de Gabriel sur le Portugal.
Le Portugal est un pays qui se situe à côté de l'Espagne. Il y a 10,33 millions de personnes, mais moi je vais vous parler de ma petite région. Elle s'appelle Serra da Estrela, située dans la région du centre. Il y a ici le point le plus haut du Portugal, à 1993 mètres. Une tour y est bâtie. On y trouve un gros caillou à trois têtes que l'on appelle Cabeça de Joelho. Moi, j'y vais tous les étés, tout le monde me connaît. Nous avons des costumes que les danseurs folkloriques portent pendant qu'ils dansent. Moi, je ne danse plus, mais je dansais. C'est une danse vraiment compliquée. Malheureusement, il y a souvent des feux à cause de la chaleur. Au niveau de la nourriture, c'est Jacinta qui vous en parlera. Voici les villes qui méritent le détour au Portugal. Lisbonne, la capitale, Porto et ses caves de dégustation, Braga et Serra da Estrela bien sûr. Voilà, vous savez à peu près tout sur le Portugal. Enfin, ce que j'avais envie de vous dire. On part maintenant avec Baptiste Savignac, rédacteur en chef du Dauphiné Libéré. Et je lui ai demandé quel secteur géographique couvrait le Dauphiné Libéré.
Alors écoute, le Dauphiné Libéré, c'est un journal qui couvre presque toutes les Alpes, de la Haute-Savoie jusqu'en fait au Vaucluse dans le sud. Donc c'est un grand secteur géographique.
C'est quoi le type de média ?
Donc c'est un quotidien de presse régionale, c'est-à-dire qu'en fait c'est un journal qui sort tous les jours et qui couvre l'actualité locale, donc d'un territoire assez restreint.
Combien y a-t-il de lecteurs chaque jour ?
Alors ça, c'est une question difficile parce qu'en fait, on sait combien on produit de journaux, mais on ne sait pas combien de gens lisent le journal. Parce qu'un journal, ça peut se passer de main en main. Et puis aujourd'hui, on a Internet, donc il y a aussi énormément de gens sur Internet qui vont nous lire. Mais pour te donner une idée, on doit être à 200 000 tirages par moment. Donc ça fait plus de 200 000 personnes. Mais en fait, parfois avec Internet, ça peut être décuplé. Donc voilà.
Depuis quand le journal existe ?
Le journal existe depuis 1944, je crois. En tout cas, c'est un journal qui a été créé à la fin de la guerre, pendant la libération, d'où son nom Dauphiné Libéré.
De quoi consiste le métier de rédacteur en chef d'un journal ?
Eh bien alors, le rédacteur en chef, c'est celui qui va diriger un peu l'équipe de journalistes et qui va donner en fait la direction éditoriale du journal. Donc nous, c'est un positionnement en fait, une sorte de ligne directrice. Pour nous, tu vois, c'est un journal en fait assez grand public, donc pas très marqué politiquement. Et voilà. Et donc c'est aussi la personne qui va décider un peu du contenu de ce qu'on va couvrir, de ce qu'on va faire comme reportage. Et voilà, c'est vraiment un poste stratégique.
Est-ce que c'est un métier que vous voulez faire depuis longtemps ?
Alors moi oui, c'est un métier que j'ai eu envie de faire depuis peut-être mes 12-13 ans, à peu près ton âge. En fait, j'ai toujours aimé rencontrer des gens, raconter des histoires. Et au départ, j'étais vraiment fan de sport. Je voulais plus, tu vois, couvrir l'actualité sportive. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'intéressais à plein d'autres choses. Et donc, j'ai étendu un peu mes centres d'intérêt. Et j'ai fait ensuite, peut-être que tu feras peut-être l'objet de tes questions, mais j'ai fait ensuite des études pour devenir journaliste.
Qui sont vos collaborateurs ? Quels sont les différents métiers utiles dans un journal ?
Alors, il y a de nombreux corps de métiers différents. Tu as donc les journalistes déjà, qui sont des gens qui vont produire du contenu, qui vont aller à la rencontre des gens. C'est eux qui sont derrière le contenu vraiment éditorial. Mais un journal, tu as aussi par exemple des commerciaux qui, eux, vont vendre de la publicité, parce que dans le modèle économique d'un journal, il y a la vente au numéro, mais il y a aussi la publicité qui rapporte. Donc t'as ça, t'as des gens qu'on appelle des secrétaires de rédaction, qui en fait s'occupent de toute la mise en page du journal, et qui vont relire pour vérifier qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, voilà. T'as un service informatique, et t'as tout aussi plein de métiers qui sont liés à la distribution du journal. Des gens qui sont spécialisés du coup dans la diffusion du quotidien et dans les partenariats avec les points de vente. Donc voilà, il y a vraiment énormément de corps de métier en fait, beaucoup qu'on n'imagine pas.
Qui prend les photos dans le journal ?
Alors les photos, donc ce sont des journalistes qui vont prendre les photos, mais on a aussi des journalistes qui sont spécialisés dans la photo. On appelle les photojournalistes. Nous, Dauphiné Libéré, il y en a un ou deux par département et qui donc se déplacent un peu, rayonnent dans tout le département. Nous, les journalistes vraiment locaux, moi par exemple, au Pays du Mont-Blanc ou dans la vallée de Chamonix, si j'ai un besoin ponctuel sur un gros événement, je vais appeler le photojournaliste pour qu'il vienne nous aider en renfort. Si moi je sais faire des photos, lui va être mieux équipé et puis c'est parfois agréable d'être plusieurs sur un même sujet, notamment quand t'as le déplacement d'un ministre ou un gros événement comme le Tour de France où là on a besoin d'être plusieurs.
Quels sont les sujets principaux du journal ?
Alors les sujets principaux, écoute, en fait c'est pas vraiment nous qui les décidons, c'est plus l'actualité qui les choisit pour nous. Mais donc ça peut être de la politique, de l'économie, de l'environnement. Ici au Pays du Mont-Blanc, il y a beaucoup d'enjeux liés à ça. Donc en fait, nous on couvre un peu tout, on n'a pas vraiment de spécialité. C'est la particularité des quotidiens de presse régionaux comme le nôtre, c'est qu'en fait on va couvrir vraiment tout ce qui se passe dans notre territoire, donc on peut être amené à traiter tous les types de sujets.
C'est quoi les derniers faits divers importants vécus en Haute-Savoie ?
Alors écoute, à l'échelle de la Haute-Savoie, là c'est une question technique parce que faut voir si j'ai bien suivi l'actualité. Malheureusement, il y en a tous les jours, hein, des faits divers, que ce soit des recherches de personnes, des choses comme ça. Après, moi, si tu veux que je te raconte un fait divers vraiment marquant là, de ces derniers temps, il y a eu la grosse avalanche à Armancet, au Contamine-Montjoie, qui a fait 6 morts et qui nous a bien occupés parce que malheureusement, il a fallu secourir les gens qui avaient été emportés, rechercher les gens décédés. Et donc, ça a duré vraiment longtemps. Ça, c'est par exemple un des gros faits divers sur lesquels on a dû travailler.
Que pensez-vous des médias locaux ?
De manière générale, écoute, je pense que c'est un moyen d'information assez important parce qu'en fait, les journalistes locaux, en principe, vivent sur le territoire, qu'ils le connaissent assez bien. Ils sont confrontés aussi directement aux acteurs et en fait, souvent, ça permet d'éviter de tomber dans des pièges que d'autres tombent malheureusement. Voilà, en fait, si tu connais bien ta zone géographique, forcément, tu vas moins faire d'erreurs, t'auras un regard peut-être un peu plus juste. Donc, je pense que c'est vraiment un maillon essentiel dans la chaîne d'information. Et d'ailleurs, beaucoup de gens continuent en fait d'acheter, se renseigner auprès des médias locaux parce qu'ils recherchent un peu cette proximité-là qui n'existe pas partout.
Merci.
Merci à toi, pas de problème, et à bientôt.
Merci Gabriel pour cette interview et voici Flower de Miley Cyrus. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Started to cry, but then remembered I can buy myself. started to cry, but then remembered
Vous avez écouté Flower et voici Wydette avec sa chronique de Jenna Ortega.
Bonjour, je suis Wydette et je vais vous parler de la fameuse actrice américaine Jenna Ortega. Jenna Ortega a 5 frères et sœurs. Elle est née le 27 septembre 2002 à Coachella d'un père mexicain et d'une mère mexicano-portoricaine. Elle est âgée maintenant de 20 ans. Elle est devenue connue grâce aux films Scream 5 et 6 et à la série Wednesday et plein d'autres. Elle commence sa carrière à l'âge de 10 ans dans la série Jenna de Virgin sous le nom de Jalvin Villeneuve, de 2014 à 2019. Puis elle prête sa voix dans la série Elena d'Avalor de 2016 à 2020. Après des années chez Disney, elle obtient l'un des rôles principaux dans la série You en 2019. Puis elle se lance dans le cinéma dans le film Yes Day de Fallous ou encore dans des films d'horreur comme Scream 5 et 6, The Babysitter, X et bien plus encore. Puis en 2022, elle devient le personnage principal dans la célèbre série Wednesday, diffusée sur le service Netflix. Elle est nommée aussitôt dans la catégorie meilleure actrice dans une série télévisée, musicale ou comique. Après un grand succès dans la série Wednesday, Tim Burton place à nouveau Jenna Ortega dans un des rôles principaux de son prochain film Beetlejuice 2. Le tournage débuta le 10 mai 2023 à Londres et la date de sortie est prévue le 6 septembre 2024. Les acteurs du premier volet, Winona Ryder dans le rôle de Linda et Michael Keaton en Beetlejuice, devraient revenir dans le deuxième film. Jenna Ortega jouera la fille de Linda. D'après Deadline, l'acteur Justin Theroux se joindra également au casting de Beetlejuice 2. Mais aucun détail n'a été dévoilé sur son rôle. Ce qui ne reste pas caché, c'est bien évidemment le talent de cette jeune actrice exceptionnelle. Merci de m'avoir écouté et voici la chronique perso de Jacinta.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la nourriture du Portugal car je suis portugaise. Fermez les yeux, suivez-moi au Galit, un restaurant situé dans une ruelle de Gérès. C'est un très bon restaurant, il y a beaucoup de choix. J'hésite entre trois entrées. 1. Les rissoles. Direction le Portugal avec ses délicieuses recettes de ravioles à la portugaise. Les rissoles à la viande hachée se présentent sous forme de demi-lune, croustillantes sur le dessus et moelleuses à l'intérieur. Un régal pour le déjeuner ou dîner, une recette facile à faire en peu de temps. 2. Bolines de bacalhau. Les beignets de morue ou bolines de bacalhau sont spécialisés qui peuvent être trouvés dans les régions méditerranéennes. Les bolines de bacalhau sont moelleuses à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les boulines de bacalhau, littéralement petit gâteau de morue, sont l'une des recettes de bacalhau morue salée les plus populaires et certainement l'entrée de bacalhau la plus connue au Portugal. 3. Queijada Serra. Selon moi, il n'est pas nécessaire de se rendre à Serra da Estrela pour découvrir l'un des fromages les plus délicieux du Portugal. Le Queijada Serra, qui existe depuis le 16e siècle et peut-être même avant, sa forme ronde et son intérieur doux et gras sont inimitables et font le bonheur de ceux qui l'ont dégusté. Il y a aussi des plats qui sont délicieuses, moelleux et succulents. J'hésite entre trois plats, comme le bacalhau au morue, et sans aucun doute un des plats les plus populaires et renommés de la cuisine portugaise. 2. Les sardines, d'autres poissons fruits, frais et fruits de mer qui sont traditionnels, servis de barbecue et dans des restaurants de plage, y compris à la fameuse fête de Saint-Juan de Braga, le 23 et 24 juin tous les ans, où elles sont servies avec des pommes de terre et des poivrons grillés. Et les foulards saisine, petite française, ce plat qui est sur le point de devenir un classique moderne et originaire du nord du Portugal dans les années 50 et 60, et associé à toutes les villes. La francisine ou petite française est un sandwich long qui est confectionné avec du beefsteak, du jambon, des saucisses et quelquefois des œufs et du bacon, recouvert d'une couche épaisse de fromage fondu et d'une sauce à base de tomates, bièvre et poivre. L'idée est partie du croque-monsieur français. Au dessert, j'hésite entre un pão de ló. Le pão de ló est un gâteau traditionnel portugais. Un dessert simple, œufs, sucre et farine. Suivant la région où vous le trouvez, le centre du gâteau est plus ou moins humide. Il peut être sec jusqu'à liquide, comme s'il n'avait pas été bien cuit à l'intérieur. Les sexes sont généralement faciles à reconnaissables, car le gâteau a un trou au milieu. 2. Pastéis de nata. Les pastéis de nata sont devenus un véritable icône portugaise. On trouve maintenant des tapisseries spécialisées dans ce petit gâteau portugais. À Madrid, à Paris, à New York, en Australie, et nous avons récemment fourni des moules pour une nouvelle pâtisserie en Islande. Mais les meilleurs pastéis de nata sont à acheter à Lisbonne, mais ce n'est pas un flan. 3. Bola de Berlin. Bola de Berlin, autrement dit la boule de Berlin, délicieusement fourrée à la crème, c'est aussi le dessert préféré de l'été. Quand on mange sur la plage, il y a toujours un vendeur qui vous propose ces merveilles bola de Berlin. Bon allez, moi je prends comme entrée les bolines de bacalhau, comme plat les francesines, comme dessert la bola de Berlin. J'espère que ça va vous donner faim.
Et voici Amnot sur Angel. Bonne écoute. Je rectifie le titre exact de cette chanson d'Ariana Grande, Don't Call Me Angel. Je vous laisse avec la chronique de Gulchen.
Donc pour commencer, pour moi, il y a un vêtement qu'il faut avoir dans tous les placards, c'est le jean. Exemple, on peut le porter avec n'importe quel haut, chaussure, accessoire. Mais il faudra toujours respecter un code de couleur, car si on mélange trop de couleurs, ça peut vite ressembler à rien. Pour ces dés, on peut se dire 3 couleurs dans une tenue maximum. Nous avons différents types de corps et par rapport à ça, il y aura différentes façons de le mettre en valeur. C'est important de bien connaître sa silhouette pour bien s'habiller. Avec une silhouette en poire ou en A, mettez votre taille en valeur. Par exemple, avec un crop top associé à un pantalon évasé, avec une silhouette en rectangle où la taille n'est pas beaucoup marquée. Foncez sur les jeans droits ou bottes cut. Si vous avez une morphologie en haut, vos courbes seront facilement mises en valeur. À l'aide de vos différentes tenues, choisissez des hauts plutôt fluides et dévoileront vos formes sous les moulets et optez pour des décolletés en V. Vous avez les épaules marquées et la taille fine et les jambes plutôt élanchées, donc vous avez une morphologie en V. Les cols en V vous iront à ravir. Mettez en valeur vos jambes. Je vous laisse avec la chronique de Lina.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la Corée du Sud. En Corée, l'écriture s'appelle le Hangul, créé par le roi Sejong en 1443. Dans le drapeau coréen, il y a les 4 éléments universels, le ciel, la terre, le feu et l'eau. La Corée est située en Asie, au sud de la Corée du Nord et à l'ouest du Japon. Je vais vous présenter quelques plats typiques en Corée du Sud. Il y a un plat connu, qui est une salade coréenne, qui s'appelle le bibimbap, qui est constitué de riz blanc, de carottes râpées et de plusieurs légumes, et il y a un œuf sur le dessus. Il y a aussi le kimchi, qui est du chou fermenté, les tteokbokki sont du riz gluant avec de la sauce piquante, le bulgogi est aussi un plat connu qui se compose de bœuf et de quelques champignons et des carottes. La Corée est aussi connue pour sa musique, la K-pop, qui est apparue au début des années 1990 et qui maintenant est un gros succès dans le monde entier. La tenue traditionnelle en Corée s'appelle le hanbok. Pour les garçons, le hanbok est constitué d'une veste et d'un pantalon, et d'une veste et d'une jupe pour les femmes. L'histoire du hanbok remonte à la période des trois royaumes à partir de 18 ans avant Jésus-Christ. Si un jour vous voulez aller en Corée, je vous conseille Séoul. Là-bas, il y a plein de bâtiments historiques, mais si vous aimez mieux la plage avec la mer, je vous conseille Busan, qui est au sud et il y a plein de choses à visiter là-bas. Il y a aussi Jeonju, qui est une île volcanique située à 85 km de la Corée. Je vais vous dire les 10 choses à ne surtout pas faire en Corée. Ne pas commencer le repas avant la personne la plus âgée. Il faut attendre que la personne âgée nous donne la permission pour commencer le repas. Ne surtout pas planter les baguettes dans le riz, on doit les poser sur la table. On ne soulève pas le bol de riz pour manger comme le Japon et la Chine, on laisse le bol sur la table. Pour dire bonjour, on ne serre pas la main et on n'embrasse pas, on doit juste se pencher légèrement. Dans le métro, vous verrez des places de couleurs différentes que les autres. Ne vous asseyez pas dessus, ce sont des places réservées pour les personnes âgées, handicapées ou pour les femmes enceintes. N'entrez jamais dans une maison avec vos chaussures, vous trouverez toujours un petit espace pour les déposer en arrivant. Si vous partagez un repas avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, et il vous offre un verre de soju ou de bière, il est recommandé d'accepter, même si vous n'êtes pas un très grand buveur d'alcool. En Corée, c'est un geste qui montre le respect et l'amitié. Se moucher en public est perçu comme malpoli, et peut aussi afficher une mauvaise hygiène. Si vous êtes en réunion ou à table, mieux vaut vous excuser aux toilettes pour vous moucher à l'abri des regards. En Corée, cela est considéré comme très important en termes d'étiquette. Utiliser une main, surtout si c'est la main gauche, est considéré comme impoli. Alors prenez l'habitude de toujours utiliser les deux mains pour donner ou recevoir quelque chose. Bien que les règles de société commencent à changer en Corée, le pays reste quand même assez conservateur. Par conséquent, les vêtements que vous pouvez porter peuvent influencer l'opinion des Coréens à votre sujet. Bien que montrer ses jambes et porter des mini-jupes soit accepté en Corée, dévoiler son dos et ses épaules est assez mal vu. Et voici la chronique sur la radio de Gulchen.
Bonjour, je m'appelle Gulchen, j'ai 12 ans, je suis en 5e au collège du Vernet à Sallanches. Mon groupe et moi travaillons sur les médias locaux, et moi j'adore la radio. Je l'écoute toujours en voiture. Je préfère les radios musicales, j'écoute surtout Skyrock et Nostalgie, car les musiques sont incroyables. Mais il y a une question que je me pose, à quoi sert la radio ? 1. La radio sert à se distraire, à se cultiver, mais aussi à écouter de la musique. La radio permet aussi de découvrir des chansons et des artistes nouveaux. La radio est bien évidemment un média qui informe de ce qui se passe près de chez soi, mais aussi à travers le monde. Comment crée-t-on la radio ? C'est grâce à Guglielmo Marconi, un Italien curieux et inventif, à 22 ans. Il a le génie de rassembler différentes inventions pour fabriquer la première radio. Et ça marche. En 1896, il crée l'associé Marconi, qui développe la radio sur tous les continents. Il existe ce qu'on appelle les radios locales. Près de Sallanches, il y a la radio Mont-Blanc, qui est l'une des plus connues. Elle diffuse les actus du moment, la météo, les concours. Bref, tout ce qui va viser le pays du Mont-Blanc. Nous avons aussi Globule Radio. avec qui nous faisons des ateliers. Globule Radio est une radio associative. Elle a été créée en 2012 par Jessica Compois et Jean-Claude Aragon. Elle est basée dans la vallée de Chamonix et développe trois axes. Le premier, c'est d'être une radio de service en animant l'antenne avec des sujets pour bien vivre dans la vallée de Chamonix. C'est-à-dire, on peut entendre la météo, l'ouverture des remontées mécaniques, les interviews des acteurs locaux et l'agenda des événements. Le deuxième, c'est de produire des podcasts pour différents partenaires. Le troisième, c'est de proposer des ateliers d'initiation au métier de la radio. C'est ce que nous avons fait avec ma classe.
Je vous laisse avec Sous les Sunlight des Tropiques. Hein ?
Vous êtes toujours sur Globule Radio en direct du CDI du Collège du Vernet. C'est toujours WIDET. Je vais vous parler de la journaliste et écrivaine française Florence Aubenas. Née le 6 février 1961 en Belgique, d'abord étudiante à l'école européenne de Bruxelles, elle effectue deux années de classe préparatoire, puis sort diplômée du centre de formation des journalistes. Ensuite, elle est journaliste pour Le Matin de Paris et Le Nouvel Économique, avant de rentrer en 1986 à Libération. Elle couvre de nombreux événements au Rwanda, où au Kosovo, en Algérie, en Afghanistan et en Irak, et dans plusieurs procès en France. Le 5 janvier 2005, Florence Obna est enlevée à Bagdad en compagnie de son fixeur lors d'un reportage sur les réfugiés de Fallujah. Deux semaines après la libération des journalistes Christian Chenoz et Georges Malbruno. Le 1er mars, une cassette est déposée à l'agence Reuters, diffusée par Sky Italia, faisant apparaître Florence Obna s'exprimant en anglais pendant 26 secondes. Elle est déclarée être en mauvaise santé, y compris physiquement. À la fin, elle demande l'aide de Didier Julia. Les ravisseurs semblaient en effet dans la vidéo employer un projecteur vert afin d'accentuer la fatigue des traits de leurs victimes. La vidéo non datée ne s'accompagne d'aucune revendication et ne porte le nom d'aucune organisation. Cinq autres preuves de vie des vidéos attestent que l'otage est toujours vivante. Le 15 juin, le ministère des Affaires étrangères annonce la libération de Florence Obna. Elle est libérée à Bagdad et remise aux agences de DGSE. Elle fait une escale à Chypre où elle rencontre Philippe Douce, Blasi, ministre des Affaires étrangères. Puis arrive en France dans l'aéroport militaire de Villecoubla. Puis, peu après, elle est transférée à Orléans pour donner plus d'infos sur son enlèvement. Le 29 mai, suivant officiellement pour ne pas encourager d'autres enlèvements, la France n'a versé aucune rançon. Un article de Time avance néanmoins que les ravisseurs auraient réclamé 15 millions d'euros et que 10 millions auraient été versés. En 2016, dans Livre d'entretien, François Hollande affirme que la France a bel et bien payé une rançon. Voilà, c'est tout pour Florence Obna. Je vais vous laisser avec la suite. À tout à l'heure.
Bon, je vous laisse avec Je comprends pas de PNL. Bonne musique et bisous.
Ce soir, je fume un gros terre. Je t'aime à ton postérieur, je veux le même en poster. Si on se tue, je compte pas les balles qui se perdent. La vie c'est chelou, je la baisse, y'a pas de mystère. Nico, je deviens méchant, pas de jasmine pour Jaffa. J'suis comme le bas de mon bâtiment, j'ai tous les jours le cafard. Mes yeux clairs regardent l'enfer, l'enfer, l'enfer. J'croyais que t'étais droit, mais en fait, en fait, en fait, en fait. J'fais pomper traction, j'ai tri à Vegeta. Les pecs à l'Eonita, c'est ta bite, j'sommet tes doigts. Et j'pente et j'pente, et j'fais un gros smiley. Et j'vais tous les rapates si j'vends mon cœur en taille TR. J'ai trop traîné en baba. J't'enferme une nom pour papa. Tu testes, on sort le baba. Je comprends pas pourquoi on comprend pas. Que Dieu me pardonne si je me trompe. La la. J'pose ma mif avant qu'on pose ma tombe. Kala, 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 kala. Ce chemin étroit et sombre me séduit. L'impression qui soigne mon cœur de Iti. Couvert d'oseille, ego, j'suis sous calmant. De la haine en revanche, j'en ai tellement. Et j'comprends pas pourquoi on comprend pas. T'es seul dans le nord, j'espère que ton ombre ne t'a pas lâché. Et ils croient savoir pourquoi on en bat.
J'arrive pas le premier, ni le dernier. QHF, ceux qui crèvent à part. Je m'endors sous alcool vers Zadar. Je vends la drogue, c'est pas un hasard. Je prends mes thunes, je rentre à la casa. J'étais mal à la lune, les péchés m'entêtent. Les anges me parlent, mais moi j'entends pas. Je suis dans ma bulle, je suis baissé, je m'embête. Et je comprends pas pourquoi je comprends pas. J'ai trop traîné en baba. J't'en fais un million pour papa. Tu testes ton sang le baba. J'comprends pas pourquoi on comprend pas. J'ai trop traîné en baba. J't'en fais un million pour papa. Tu testes ton sang le baba. Je comprends pas pourquoi on comprend pas, comprend pas, comprend pas.
Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM en direct du Collège du Vernet. Je vous rappelle, notre groupe s'intéresse aux médias et moi j'ai choisi de parler de Nelly Bly. Elisabeth Jade Cochran, plutôt connue sous le nom de Nelly Bly, née le 5 mai 1864 dans le comté d'Armstrong et est morte le 27 janvier 1922. Nelly est une journaliste américaine. Elle part à New York en 1887 où elle pose sa candidature au New York Tribune, au New York Times et surtout au journal La Sensation, le New York World de Joseph Pulitzer. Pulitzer lui promet alors un contrat si elle parvient à s'infiltrer dans un asile. Elle accepte. Sa première tâche consiste à écrire un article au sujet d'un asile de fous pour femmes, le Baxwell Island Hospital à Roosevelt Island. Elle se fait passer pour une malade et s'invente des problèmes psychiatriques. Elle s'invente une fausse identité afin d'y être internée. Après une nuit d'entraînement, l'illusion est parfaite. Tous les médecins la déclarent folle et se prononcent pour son enterrement. Elle reste 10 jours dans l'hôpital. Le reportage fait la une de toute la presse. Elle fait scandale en dévoilant les conditions épouvantables des patientes, les horreurs des méthodes utilisées. Nourriture avariée, eau souillée, bâtiments infestés. L'excitation de la journaliste est vite remplacée par l'inquiétude. Elle est contrainte à passer de longues heures assise sur un banc. Parfois, elles sont même battues à mort par des infirmières sadiques dans l'indifférence du corps médical. Nelly subit elle-même ses maltraitances, des soignantes l'obligent à prendre un bain glacé. Ce mode de journalisme, le reportage clandestin, devient sa spécialité. C'est avec cette femme d'exception que l'on termine cette émission. Merci pour votre écoute, restez à l'écoute de Globule Radio toute la journée pour écouter nos collègues de la classe de 5ème D.
A te po an.
Ciao.
Bisous.
Au revoir. Au revoir.
Yeah.